Bon, alors, comme Pierre a raconté beaucoup de choses déjà, anticipé aussi sur ce que j'allais dire, je vais essayer de nourrir la fin de la matinée au travers de cet exposé. Alors, cet exposé, je l'ai conçu autour de l'évaluation, bien sûr, hein, et je l'ai conçu comme un trajet, finalement, pour aller vers le socle commun, qui pose quand même beaucoup de problèmes d'évaluation, même si dans les textes, on dit qu'il faut évaluer. Et je vais essayer de montrer des points que nous connaissons comme posant problème aux élèves et qu'il faudrait, je crois, garder en mémoire pour les travailler, pour les évaluer. Enfin, j'en dirai quelque chose sur un certain nombre d'entre eux. Alors, bon, j'ai été présentée ce matin comme appartenant à cet UMR de l'INRP. Bon, j'ai pour ma part travaillé très longtemps à l'INRP tant que l'INRP a été à Paris, et j'ai été associée à de nombreuses opérations d'évaluation, mais j'ai une spécificité, vous allez devoir, je vais vous entraîner dedans, hein, je suis une spécialiste de la lecture, donc je vais prendre des exemples du côté de la lecture, pour PISA, pour les autres choses. Bon, j'ai eu énormément de travaux partagés avec Pierre à l'ADEP et puis des travaux plus spécifiques. J'ai fait des analyses complémentaires de PISA et de PIRLS, et je me suis intéressée aux analyses de contenu de réponses des élèves, ce qui me permettra de documenter ce que je vais dire tout à l'heure. Voilà. Alors, comment marche cette souris ? Non, il faut cliquer sur le... Ouais. Ah, pardon, j'ai été un peu vite. Alors, ne sachant pas le public auquel j'allais avoir affaire, je vais, de manière non prétentieuse, rappeler ce qu'on appelle lire pour nous les spécialistes de la psychologie cognitive. Hein. Alors bon, je pense que ça s'appliquera aussi bien à du lecteur de romans qu'à du lecteur de textes mathématiques. Hein. Bon, le lire, il y a quand même à peu près 20 ans que nous sommes d'accord sur le fait que c'est une rencontre interactive entre un individu et un texte. Alors, ce lecteur, eh bien, il va jouer un rôle important dans cette construction du sens. Hein, et ce lecteur, il va mener des opérations mentales. Il va mener des opérations mentales, il va appliquer à ce texte des traitements. Alors, il va réaliser des inférences, ça veut dire qu'il va coupler des informations. Il va, par exemple, c'est l'exemple, on prend souvent cet exemple dans... En lecture, et je pense que ça convient bien aux maths aussi, hein. Ce « il » là, ce pronom qu'il représente, qu'est-ce qu'il veut dire, il faut le coupler à autre chose, le relier à autre chose, et c'est au travers de ça qu'on va comprendre le texte, les personnages du texte s'il s'agit d'un roman ou d'une histoire. Et quand on lit, on mobilise des connaissances, qu'il s'agisse de connaissances grammaticales, qu'il s'agisse de connaissances sur les formules mathématiques, sur la réalisation de je ne sais quelles opérations. Et bon, là aussi, on pourrait développer pendant un long moment tout ce qu'il y a comme connaissances qui entrent en jeu quand on lit. Alors, tout ça fait que le lecteur, je dis tout ça rapidement, mais ça va se documenter par la suite, hein, tout ça fait que le lecteur élabore une représentation mentale qui va au-delà du texte. C'est pas simplement ce qu'il y a dans le texte, hein, c'est pas... Mais ça... Quand il construit des inférences, quand il comprend que, quand on dit « il avait roulé toute la nuit », ça veut dire qu'il est fatigué, enfin bref, ça évoque des connaissances. Le lecteur a aussi des connaissances qu'il a au travers d'expériences qu'il a rencontrées dans sa vie. Donc, chaque lecteur va construire une signification, une représentation mentale qui est la sienne. Alors, bien évidemment, il y a des choses qui sont en commun, hein, mais ça dépasse le texte. Alors, toujours est-il que cette construction, elle dépend d'un ensemble de facteurs qui ont des influences réciproques, et c'est pareil, ça viendra dans le cours de l'exposé. En tout cas, le niveau de performance, alors je fais très attention, puisque j'ai un voisin qui a parlé de performance, compétence tout à l'heure, hein, mais le niveau de performance que va atteindre ce fameux lecteur, hein, il va résulter du poids d'un triple ensemble de contraintes. Le niveau de performance va résulter d'un ensemble de contraintes qui sont dues au lecteur lui-même, hein, au lecteur et à ses caractéristiques, selon que c'est un élève de CE1 qui est déjà bon lecteur en CE1, qui a des difficultés de lecture, je reste sur la lecture, qui a des problèmes de mémorisation, qui va être lent dans sa lecture, ou au contraire, qui a beaucoup de connaissances auxquelles il fait appel très rapidement. Alors, ça va peut-être vous paraître ridicule comme remarque, hein, mais il n'y a pas si longtemps que ça qu'on s'intéresse au texte. Hein. Pendant longtemps, on a jugé le lecteur comme s'il n'avait pas de support en face de lui. Et il n'y a guère qu'une vingtaine d'années que l'on prend en compte le degré de difficulté, les propriétés du texte que le lecteur a traité. Et puis son contenu, bon, selon la familiarité qu'on a du contenu, on ne va pas être le même lecteur qu'avec un autre texte. Alors en disant cela, qu'on ne va pas être le même avec tel ou tel texte, ça veut dire que je fais déjà une avancée en disant qu'il est fortement imprudent de tirer une conclusion du niveau de lecture à partir d'un support de quelques items. C'est-à-dire que j'alourdis déjà la charge en disant attention à ce que l'on évalue. Alors, il y a aussi une chose qu'il faut absolument avoir en mémoire quand on prépare des évaluations, des évaluations qu'on spécifiera un peu tout à l'heure. Hein. Il faut aussi se dire que ce lecteur, il va avoir des objectifs de lecture qui vont être les siens ou qui vont être ceux qu'on va lui donner, nous les enseignants, au travers d'une tâche, d'une consigne. Et selon cette tâche, selon cette consigne, c'est pareil, ça va moduler ce niveau de performance. Tout ça pour dire d'emblée, alors que je n'ai pas vraiment mis les pieds dans l'évaluation, qu'il va falloir gérer tout ça, et notamment, j'y reviendrai aussi, s'interroger sur qu'est-ce que cette tâche, qu'est-ce que cette consigne va demander comme opération mentale au lecteur qui est en face de moi. Et je le dis à nouveau pour la lecture, mais je le dirai aussi pour les maths, la physique, la géographie, enfin, toutes les disciplines que nous pouvons avoir à l'école. Alors, tout ça, c'est pour vous dire que j'essaie d'avoir un peu de connivence, mais je crois que c'est pas de la simple connivence, hein, c'est vraiment des préoccupations qu'il faut qu'on ait. Alors, je vais parler de métacognition à un certain nombre de moments, et donc, prendre quelques exemples et essayer de définir rapidement la métacognition, parce que j'étais pas sûre que nous ayons des connaissances partagées. Alors, la présentation là est pas très habile, mais c'est pas grave, je vais la commenter, j'aurais dû faire un affichage, mais en tout cas, voilà. C'est une expérience qui a été faite par un collègue suisse fin de CM2, fin de CM2, début de 6e, je ne sais pas exactement le niveau. En tout cas, on demande à des élèves de donner la formule de calcul de l'aire d'un triangle. Quelle est la formule de calcul de l'aire d'un triangle? Et on a 85% de réussite. 85% des élèves connaissent la formule. Mais quand on leur demande de l'appliquer, on donne la base et la hauteur. Et quand on demande de calculer l'air, on a 70% de bonnes réponses. On voit que ça chute légèrement. Bon, l'élève qui doit appliquer la formule peut ne pas savoir l'appliquer, peut faire des fautes de calcul. Enfin bref, il y a une petite déperdition. Maintenant, quand on passe à la tâche qui consiste à on vous donne un triangle, vous allez prendre les mesures nécessaires et calculer l'air. Je ne sais pas si c'est bien formulé du côté d'un professeur de mathématiques, mais en tout cas, j'ai repris ça rapidement. Là, on voit que quand il faut mesurer, calculer, la performance baisse et on a moins de 50% de réussite. J'ai précisé qu'il s'agissait d'un triangle prototypique, comme on le voit dans les manuels, comme on le présente à l'école. Alors, je ne vais pas plus loin, parce que quand on présente le triangle qui a un angle obtus, ou quand on présente le triangle avec la pointe en bas, alors là, les performances sont complètement dégradées. Bon, pourquoi ai-je pris cet exemple? Eh bien, pour définir, finalement, la métacognition. Et j'y viens, je vous vois noter les pourcentages. Bon, qu'est-ce qu'on voit? Là, quand on est dans la question 1, on est dans des connaissances que les élèves ont apprises, voire par cœur. Ils connaissent, ils savent réciter la formule. Quand on passe à une application, c'est-à-dire une application simple, il n'y a pas un appareillement très complexe à faire. On voit que les élèves sont déjà moins à l'aise. Et quand il y a davantage de chemin à faire, davantage d'opérations à mener, les élèves ont de plus en plus de difficultés. Et il y a une charge, comme on dit, nous, les psychologues de la cognition, il y a une charge cognitive qui s'alourdit et on voit, à ce moment-là, les performances baisser. Bon, je vais mettre ça en mots pour la métacognition, hein, mais en tout cas, là, j'accompagne mon propos en parlant d'opérations cognitives, de charges cognitives. C'est ce qui va aussi m'accompagner dans cette présentation, dans la suite de la présentation. Alors, bon, voilà, ce que je vais énoncer rapidement, hein, et là, c'est ce qu'on appelle les connaissances métacognitives. Bon, quand on parle de métacognition, on parle de trois types de connaissances, hein, des connaissances déclaratives, c'est des connaissances qui ont trait à des listes de propriétés, à des règles qui portent sur l'accord du sujet et du verbe, qui portent sur... quand je rencontre un mot que je ne connais pas, je peux aller dans le dictionnaire. Mais quand je vais dans le dictionnaire, comment je fais pour sélectionner le sens qui convient du mot quand je suis face à six définitions de ce mot? Là, on est dans les connaissances procédurales. Il y a des règles d'action à mettre en place. Comment je fais pour les appliquer? Comment je fais quand j'ai un triangle, finalement, pour... savoir calculer son aire, comment je mesure, hein, et qu'est-ce que je fais de cette mesure. Hein. Et puis alors là, ça, c'est pas quelque chose qui va beaucoup nous servir aujourd'hui. Hein. C'est les connaissances conditionnelles, c'est savoir ne pas prendre la chaîne d'arpenteur pour mesurer le triangle qui fait... Je prends un exemple grossier, hein, mais en tout cas, je prends pas la chaîne d'arpenteur pour mesurer le triangle qui est là sur ma feuille. Hein. En tout cas, c'est quelle stratégie faut-il avoir? C'est l'adaptation des stratégies. C'est peut-être pas la peine de prendre un dictionnaire pour savoir le nom de la rue qui est derrière. Hein. Il vaut mieux prendre un plan de la ville de Lyon. Hein. Voilà, je prends des exemples bâtards comme toujours, hein, quand on fait ce genre de choses. Hein. Bon, je pense... Je peux passer à la suite ou... Bon, alors, bon, tout ça pour arriver à la métacognition, essayer de mettre un petit peu d'aplomb ce qu'il y avait auparavant. Bon, la métacognition, c'est les connaissances que nous avons sur notre fonctionnement cognitif. Alors, les connaissances qu'on a sur notre fonctionnement cognitif, elles reposent sur ce que j'ai appelé tout de suite les connaissances, et puis il y a le contrôle. Bon, quand on fait une tâche... Quand on s'engage dans une tâche, eh bien, on peut la planifier. Bon, je dois faire un exposé sur quelque chose, sur le Moyen-Âge, exemple bien aimé à l'école. Hein, je dois faire un exposé sur le Moyen-Âge. Je dois m'intéresser à la vie au Moyen-Âge. Comment je vais faire? Alors, je planifie comment je vais faire. Alors, je vais aller chercher tel et tel support. En cours de route... je vais m'interroger, est-ce que ça répond à la question, aux questions que je me pose. On va donc auto-évaluer où on en est, voir si on a avancé. Et enfin, si on voit qu'on n'a pas adopté la bonne stratégie, eh bien, on va réviser cette stratégie qu'on avait mise en œuvre. Alors bon, ça, c'est les trois étapes du contrôle métacognitif. Hein. Planification, auto-évaluation et révision. Tout ça tourne autour des stratégies que l'on va avoir et ça fait appel aux connaissances aussi que j'ai évoquées tout à l'heure. Bon, tout ça, c'est des choses que je vais donc utiliser pour interpréter des résultats d'élèves et vous allez voir que je vais largement dépasser PISA. Je vais essayer de réconcilier des évaluations dont nous disposons et finalement, nous ne savons pas forcément que nous les avons et nous ne les exploitons pas autant que nous pourrions le faire. Et puis, peut-être que nous ne pouvons pas le faire aussi, parce qu'il y a ces fameuses évaluations bilan auxquelles on n'a pas si facilement accès, finalement. Alors, bon, après être passé par mon jargon, je vais retomber sur la littératie. Pierre a déjà bien avancé tout ça, et est reparti vers Jacques Goudy. Hein. Bon, en fait, en France, cette notion de littératie, elle est devenue familière au paysage de l'ADEP au travers des évaluations internationales. Alors, Pierre a cité tout à l'heure les évaluations de l'IEA et de IALS où nous avons été commis pour essayer d'expertiser pourquoi les Français avaient d'aussi mauvaises performances. Alors, nous pourrions vous raconter nos aventures au travers de tout cela. Hein. Alors, en tout cas, moi, je l'ai appelé concept nord-américain parce qu'il est vraiment, il a vraiment pénétré notre société au travers de ses enquêtes. Hein, d'il y a, on vieillit vite, hein, d'il y a une vingtaine d'années maintenant. Hein. Alors, ce concept de littératie, il véhicule l'idée d'un fonctionnement autonome des individus, hein, d'un fonctionnement autonome dans la société. Il véhicule l'idée de capacité d'adaptation à des supports variés. Dans cette fameuse enquête IALS, il y avait des supports qui étaient autour de ce qu'ils appellent la prose, enfin autour du texte narratif, autour de documents. Alors c'est aussi bien des documents qui consistent à demander un emploi qu'à être capable d'utiliser la notice d'achat d'un radio-réveil, que d'être capable d'utiliser la garantie d'un frigo. Mais alors... Ça, c'est ma mauvaise langue qui va apparaître là. Sauf que les procédures que l'on a sur la garantie en France et sur le support qui sortait des États-Unis ne sont résolument pas les mêmes. Et on n'arrive pas à comprendre ce qu'on vous demande parce qu'on n'est vraiment pas dans les mêmes contextes. Ce qui pose les problèmes d'adaptation des épreuves. Hein. Alors, il y a aussi l'idée de travailler sur des écrits divers, authentiques. Alors, la notice d'utilisation... du porte-bébé, par exemple, c'est un écrit authentique où vous avez 4 pages pour savoir comment il faut monter le porte-bébé qu'on met dans la voiture, le siège bébé qu'on met dans la voiture, enfin, etc. C'est très authentique, mais ça correspond bien à ce qu'on ne fait pas vraiment. Mais il y a quand même des situations plus pertinentes. En tout cas, Pierre l'a évoqué tout à l'heure, hein, ce concept de littératie, il a été intégré dans cette enquête PISA qui traite d'élèves de 15 ans. Alors, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'élèves de 15 ans parce que ce n'est pas une définition que nous avons dans nos évaluations en général. Nous avons une entrée par le niveau scolaire. On évalue en classe de 6e, on évalue en classe de 3e, mais on n'évalue pas les élèves de 15 ans. Ça m'amènera tout à l'heure à considérer justement les problèmes que ça nous pose ou les éclairages que ça apporte. Alors pourquoi cet âge de 15 ans ? Bon, j'ai été expert de PISA dès le début de cette enquête et j'ai donc vu les difficultés qu'il y avait à définir. Alors est-ce que ça va être 15 ans ? Est-ce que ça va être 16 ans ? En fait, cet âge a été choisi comme l'âge de fin de scolarité obligatoire de nombreux pays. Alors c'est 15 ans, c'est 16 ans. Bon, donc on a fini par se mettre d'accord sur les 15 ans et ça correspond donc à une transition entre l'école et le monde du travail. Alors en fait, c'est défini dans les textes de l'OCDE, cet âge, et puis cette évaluation de la littératie, comme étant le degré de préparation à la vie adulte. Vous voyez, des élèves de 15 ans, on veut savoir à quel point, à quel degré ils sont prêts à affronter, il y a ça dans les documents de l'OCDE, à quel point ils sont prêts à affronter la vie adulte. Et donc, est-ce qu'ils vont être capables de travailler, de prendre en charge tous ces écrits qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie adulte ? Alors, j'ai repris les termes de l'OCDE. Hein. Alors, on évalue la reading literacy, mathematical literacy et scientific literacy. Alors, inutile de vous dire que nous avons été un petit peu en bas. Bon, j'ai fait aussi partie des gens qui ont vérifié les traductions qu'il y a eu de PISA et ça. Et puis Claire Dupé qui était à la DEP à l'époque où PISA a été lancé en France, s'est occupé de PISA mathématiques dans PISA 2000, dans la première évaluation PISA, qui est l'évaluation PISA 2000. Alors, il fallait trouver comment traduire tout ça. Alors, c'est vrai que pour la littératie qui concerne la lecture, on a parlé de compréhension des écrits. Et pour mathématiques et sciences, on a parlé de culture mathématique et de culture scientifique. Voilà. Enfin, en tout cas, les choses... Pierre a déjà donné tout à l'heure la définition de la reading literacy. Alors, je l'ai prise dans des choses que nous avons traduites en français, effectivement, et je vais la commenter rapidement hein, au travers de cette définition. On voit qu'on parle de la capacité de comprendre. Alors, comprendre, oui. La capacité d'utiliser des écrits, hein, de les analyser. Comprendre, utiliser, analyser. Alors, autrement dit, on ne va pas forcément être à un niveau très simple du texte. Hein. Alors, je vais revenir là-dessus tout dans la diapo suivante, justement pour vous montrer comment a été construite l'évaluation. Et je ne veux pas parler que de PISA, parce que je pense que nous avons une richesse en France qu'il ne faut pas négliger. Bruno en parlera tout à l'heure. Moi, je vais faire des interconnexions entre des protocoles d'évaluation qui sont sans doute pas suffisamment exploités. Alors, bon, toujours est-il que l'idée, c'est de développer ses connaissances, son potentiel, et de pouvoir jouer un rôle actif dans la société. C'est-à-dire qu'il y a quelque part une notion qui dépasse ces notions d'illettrisme, etc. Et il faut pouvoir ne pas être gêné parce qu'on ne sait pas bien lire, parce qu'on ne sait pas bien utiliser l'écrit, et donc on est dans cette équation-là, hein, dans cette définition de l'OCDE. Bon, alors voilà, maintenant Pierre l'a déjà dit tout à l'heure, je viens de le rappeler, PISA c'est 15 ans. Alors à chaque fois, dans chaque évaluation PISA, moi je vais me baser sur celle de 2000 qui avait pour dominante la compréhension de l'écrit, où il y avait au final 141 items, c'est-à-dire beaucoup d'items. Tous les élèves n'ont pas passé autant d'items parce qu'il y a on procède par cahier tournant, c'est-à-dire qu'une partie de la population travaille sur un certain nombre de cahiers, une autre sur c'est beaucoup plus compliqué que ça. Certains élèves travaillent sur certains cahiers, d'autres sur d'autres. Mais comme le dispositif est bien conçu, on peut additionner les items à la fin. Bon, toujours est-il que l'évaluation PISA 2000, je vous explique pourquoi c'est sur celle-là que je vais raisonner, parce que c'est une grosse évaluation, c'est la dominante, c'est l'évaluation aussi pour laquelle j'ai eu accès à de nombreux cahiers que j'ai expertisés en analysant des réponses d'élèves, des contenus de réponses. Dans l'évaluation qu'il y a eu en 2003 et en 2006, on retrouvait une partie des items, et c'est vrai que je n'ai pas refait ces opérations d'analyse de contenu qui sont très lourdes. Voilà. Alors, je signale au passage que PISA, comme l'autre évaluation dont je vous parlerai tout à l'heure, n'a pas d'ancrage dans les programmes scolaires. Bien évidemment, quand on a un grand nombre de pays, il est difficile d'avoir un ancrage dans les programmes scolaires. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas poser certaines difficultés. Hein. Je ne vais pas me lancer dans PISA mathématiques dont les derniers résultats ont été annoncés en décembre dernier. Mais on est quand même conduit à dire, ben là, nos élèves n'ont pas de bonnes performances, mais c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu dans les programmes. Ou en sciences, c'est quelque chose qu'ils ont vu il y a quelques années. Ce sont donc des connaissances qu'ils n'ont pas stabilisées. Moi, je dirais en bonne psychologue, des connaissances qui n'ont pas été finalement stimulées de manière permanente, qui ne sont pas actives, hein, mais si on les avait réactivées, peut-être que nos élèves sauraient mieux faire. Bon, en tout cas, là, je passe vraiment, là, je rentre dans PISA. Et donc, dans PISA, on est parti de ce qu'on appelle une framework. Hein, on a défini ce qu'était la lecture. On a précisé quelles tâches on allait évaluer. Alors, c'est valable pour les mathématiques, c'est valable pour les sciences. À chaque fois, on part d'une définition du champ. On part de types de tâches sur lesquelles on va évaluer. Alors, les types de tâches pour la compréhension de l'écrit, ça se passe comme ça. Alors, on est dans des définitions de contenu d'item, hein, dans ce que je suis en train de dire. Alors, on va avoir des textes, hein, mais alors, on va voir comment les élèves utilise des informations qui proviennent du texte. Alors, on va voir comment les élèves sont capables d'utiliser des informations qui viennent du texte dans son ensemble, hein, qui testent la compréhension globale. Et on va voir comment ils sont capables de retrouver des informations. Alors, si vous allez lire les textes de l'ADEP, vous verrez dans les tableaux, dans les grilles, s'informer, retrouver des informations. Alors, on va voir après comment dans d'autres items, on va s'intéresser à comment les élèves développent une interprétation, comment ils interprètent le texte. Là, vous voyez, on est déjà dans quelque chose qui va demander d'aller dans des opérations plus complexes. Et puis, alors là, on va être dans des questions qui vont demander de tirer parti de connaissances qui sont éventuellement extérieur au texte, c'est-à-dire coupler des connaissances. Ceci étant, les définitions qui sont là, je pourrais vous montrer qu'on est finalement rarement dans « je suis simplement dans le texte et je n'utilise rien d'autre hein. ». Mais on n'a pas le temps de se pencher là-dessus. En tout cas, on va être dans cette partie-ci des questions, dans « je réfléchis sur le contenu et sur la forme du texte en faisant appel à des connaissances extérieures que j'ai ». Et on verra que c'est une tâche qui n'est pas très familière à nos classes et à nos élèves. Alors, voilà. En gros, les items, ils vont être construits autour de... Il va y avoir des items autour de s'informer, retrouver des informations. Des items autour de d'interpréter. Des items autour de réfléchir à la forme et au contenu du texte. Bon, il y a un certain nombre de publications que vous pouvez aller voir si vous voulez des informations plus précises là-dessus. Voilà. Alors, Pierre l'a évoqué, il fait ça beaucoup mieux que moi, hein, mais en tout cas, on va rendre compte des résultats des élèves sur une échelle de niveau de compréhension. Je vais vous en montrer une après. On va hiérarchiser les niveaux de compétences des élèves. On va les hiérarchiser et puis dire, voilà, quand on est au niveau 1, voilà ce qu'on sait faire. En gros, quand on est au niveau 1, on peut dire avec 62% de chance ce qu'un élève va savoir faire. Alors vous voyez, il y a des élèves qui vont être classés dans ce niveau-là, mais ils ne sauront peut-être pas forcément exactement faire toutes les tâches qui sont listées. Et puis alors, on a fait une échelle combinée où on a regroupé les résultats des échelles spécifiques, s'informer, interpréter, réfléchir. Je ne rentre pas dans la cuisine, mais s'il y a des questions qui vous tout à l'heure là-dessus, Pierre et moi, nous essaierons d'y répondre. Puisque tu m'as embarqué dans l'aventure, je t'embarque aussi dans l'aventure. Bon, en gros... ça vient tout de suite derrière hein, mon échelon. Alors, à PISA 2000, on avait la France qui a un score qui est proche de la moyenne. La moyenne, elle est fixée à 500 par les opérations statistiques préliminaires. Pierre n'a pas parlé de tout l'outillage statistique qu'il y a avant de démarrer l'enquête. En fait, l'enquête, elle est construite sur des exigences statistiques. Alors, bon... La France, elle a 505. Ceux qui sont les meilleurs, comme diraient les enfants, ont eu 547 en 2000. Bon, on pourrait dire, si on regarde les derniers résultats, que la France a un petit peu moins maintenant. Mais il faut aussi savoir qu'il ne s'agit pas du même... il n'y a plus les 141 items, il n'y en a plus qu'une trentaine, je ne sais plus exactement combien. Donc, il peut y avoir les Australiens qui président aux destinées de PISA... s'accordent même pour dire que on n'est pas exactement dans les mêmes conditions. Ils ont fini par l'écrire. C'est-à-dire que, bon, en n'ayant pas exactement les mêmes items, en n'ayant pas exactement les mêmes textes, en n'ayant pas exactement le même protocole, on change quand même aussi les conditions d'analyse. Et donc, c'est là aussi, même si on s'entoure de plein de précautions et de bonnes intentions, on n'est quand même pas exactement dans le même contexte. Alors là, bon, moi, je reviens... Donc, dans les publications internationales, on dit que, bon, à 505, ça veut dire que environ 63% des élèves français pourraient faire face aux tâches requises par la société, je ne sais pas s'il faut dire française ou internationale. J'ai pris le soin d'ajouter qu'il s'agit d'un concept OCDE, parce que je ne suis pas sûre que ce soit très facile pour nous de le définir. Alors, maintenant, je vais basculer du côté de notre contexte français et affirmer quelque chose et puis après je vais m'interroger sur les effets du niveau scolaire. Bon, il se trouve qu'en France, eh bien, nous avons des élèves de 15 ans qui sont au lycée, nous en avons qui sont au collège et je vais passer un peu de temps là-dessus. Bon, les effets des types de tâches, je vais y venir aussi. Pardon, je suis allée un peu vite. Alors, c'est peut-être pas bien inséré où il faut. Mais en tout cas, selon qu'on est au lycée ou au collège, eh bien, les scores, vous voyez ces scores ce score moyen de 505, eh bien, il va, c'est la finale des élèves qui sont entre 609 et 397 en niveau de compréhension. Bon, les meilleurs au lycée, on en a au lycée qui sont en première. On n'en a pas beaucoup, mais on en a quand même quelques-uns. Bon, ils ont un score moyen de 609. Nos pauvres petits chéris qui sont encore en quatrième, ils ont un score moyen de 397. Autrement dit, bon, ce score français là de 505, il ramasse des performances extrêmement hétérogènes. Et je crois qu'on oublie de dire, quand on s'atermoie sur les résultats à PISA, que c'est finalement un score composite en France. très composites, hein, qui résultent d'élèves très différents, de scolarités très différentes. On a des élèves de lycée agricole, on a des élèves de lycée professionnel, on a des élèves de lycée généraux. Donc on est quand même, par rapport à d'autres pays qui ont des systèmes extrêmement plus simples, hein, on est quand même dans quelque chose qu'il faut commenter. Alors, ce que l'on a en France, mais on l'a dans d'autres pays, et on n'a pas forcément la même organisation des résultats, on a un effet des types de tâches. Nos élèves réussissent bien quand il s'agit de prélever de l'information. Nos élèves réussissent un petit peu moins bien quand il faut interpréter des textes. Et ils réussissent encore moins bien quand il faut s'appuyer sur le contenu du texte, sur réfléchir sur le contenu du texte. Alors, j'ajouterai tout de suite, et j'en ai pas parlé jusque-là, que les tâches où il faut effectivement réfléchir et agir sur le contenu du texte sont aussi des tâches où il faut répondre, élaborer sa réponse soi-même. Bon, dans PISA et dans de nombreuses enquêtes, on a des QCM et on a des réponses construites où il faut élaborer sa réponse. Alors, nos élèves, j'anticipe, je le redirai tout à l'heure encore, sans doute, nos élèves, quand il faudrait répondre en construisant une réponse, c'est-à-dire rédiger, élaborer une réponse par écrit, eh bien, ils ont du mal à le faire. Et ils ont une certaine... Enfin, je le dis comme ça, très simplement. On s'aperçoit qu'ils ont des difficultés à le faire ou qu'ils ont des réticences à le faire et qu'ils se caractérisent par un nombre de non-réponses un petit peu remarquable par rapport à d'autres pays. Nos élèves, quand il s'agit de QCM, eh bien, réussissent comme les élèves des autres pays. Hein, mais quand il faut donc passer à l'écrit, et j'en reparlerai tout à l'heure pour d'autres éléments... Bon. Pierre, je l'ai présenté de manière un peu différente. Voilà, les élèves qui sont au niveau zéro, ce sont des élèves qui ont de très grosses difficultés avec l'écrit. Bon, ils étaient moins de 5%, ça a un petit peu augmenté en prenant le protocole de d'autres fois. Il ne faut pas être, je crois, dans des comparaisons strictes. Hein. Je crois qu'il faut être dans des alertes. Hein. Qu'est-ce que ces résultats nous permettent d'avoir comme interprétation des résultats que l'on a, sachant que ces évaluations bilan, ce ne sont pas des évaluations de vos élèves. Hein, je crois aussi qu'il faut cesser d'utiliser ces évaluations telles qu'elles ne sont pas faites pour servir. Hein. Bon, ce que l'on voit, c'est que le niveau 5, c'est-à-dire les élèves qui savent très bien synthétiser l'information, qui savent très bien interpréter, qui ont des hauts niveaux de compétences, bon, il y en a moins de 10% en France, il y en a peut-être plus dans d'autres pays. Mais quand on regarde le type d'évaluation qu'on mène en France, c'est vrai que nos élèves ne sont pas non plus dans des situations qu'ils ont l'habitude de rencontrer. Hein. Alors là, je vais passer, on reviendra sur ces résultats après, mais si vous en avez besoin. Moi, ce que j'ai fait, c'est ventiler comment sont nos élèves de 15 ans, en 2000, comment ils se ventilaient à PISA en termes de scolarité, PISA, toujours compréhension de l'écrit. Alors voilà, hein, c'est pas des histogrammes avec ce qu'on a comme élèves en première, j'ai pas repris les pourcentages qu'on a en première, mais en tout cas, quand on est en première, je vous dis, on a 609. Quand on est en seconde, c'est-à-dire qu'on est à son niveau, hein, quand nous, à 15 ans, on devrait être en seconde, et quand on est en seconde générale ou technologique, on est à 561, c'est-à-dire qu'on est bien au-dessus de la moyenne des performances. Je vous ai dit, l'attente qu'on avait sur la moyenne, c'est 500. Hein. Nos élèves, eh bien, ils sont aussi bons que les élèves finlandais quand ils sont à leur niveau de scolarité attendu. Mais ce que l'on voit, eh bien, ce qui entache fortement nos résultats, ce sont les élèves, eh bien, qui sont allés en seconde pro, en troisième et en quatrième. Mais est-ce que c'est étonnant que des élèves qui sont encore en quatrième aient des performances comme celles qui sont là? C'est des élèves qui ont vraisemblablement des problèmes en lecture et ailleurs. Hein, les élèves de troisième, je vais faire une analyse particulière sur ce qu'ils sont. Alors, ces élèves de troisième qui sont en troisième à PISA en 2000, et ils sont 36%. Il y a plus du tiers de l'échantillon qui est en troisième. Alors, justement, j'ai J'ai essayé, bon, je l'ai dit tout de suite, hein, je l'ai évoqué, les problèmes, enfin, les effets des types de tâches, le produit des non-réponses, le poids des non-réponses, je l'ai déjà dit. Je reviendrai sur le statut de l'écrit, le statut de l'erreur, et je vais passer rapidement à une autre analyse. Bon, à une analyse sur la scolarité. Les faibles performances à PISA, ben voilà. On trouve des explications, mais c'est pareil, je vais revenir tout à l'heure dessus. Nos élèves ne réalisent pas suffisamment d'inférences. Et ce processus inférentiel, il est important dans de nombreuses tâches. Bon, comment je peux dire ça? On voit que nos élèves savent bien, allez, je vais le dire un peu violemment, savent bien piocher de l'information, savent bien échantillonner dans les textes, aller à la pêche. Ils savent le faire à tous les âges, à tous les niveaux scolaires. En CM1, ils savent bien le faire. Au CE2, ils savent bien le faire. Ils savent toujours bien le faire à PISA. Mais quand il faut, eh bien, aller au-delà du texte, mettre en relation des informations, eh bien, ils savent moins bien le faire. Alors, bon, après, on s'interrogera sur le pourquoi. Je vous ai dit tout à l'heure, tout de suite, le statut de l'écrit qui interroge. Hein, qu'est-ce qui fait que nos élèves, finalement, ont autant de mal à passer à l'écrit? Alors, vous me direz que c'est quand même curieux que pour évaluer la lecture, on passe par de l'écrit. Bon, alors, comment on fait pour tenir les deux bouts de la ficelle, pour critiquer les QCM et puis pour dire qu'est-ce qu'on fait d'autre, hein? Alors, en principe, quand on est dans les jugements sur les contenus de réponse, on doit faire abstraction des fautes d'orthographe, etc., de la manière dont c'est rédigé. Mais des fois, je vous assure, pour avoir corrigé de nombreux... Alors, corriger, j'aurais peut-être... Pour avoir codé de nombreux protocoles ou être parti sur des analyses de contenu, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de faire abstraction de l'environnement dans lequel vous place l'élève, où il y a une telle syntaxe que, bon, il faut arriver à dire qu'est-ce que je peux tirer de ça, hein. Enfin, en tout cas, j'ai aussi, dans des analyses secondaires, refait passer des épreuves de PISA et discuté avec des élèves. Et qu'est-ce que disent nos élèves? Ils ont peur de se tromper. Ils essaient de ramener à des tâches qu'ils connaissent. Ils me disaient, hein, eh bien ça, c'est pas les questions qu'on nous pose dans la classe. Alors, j'ai essayé de ramener ça à comment on fait, hein. On nous pose pas des questions sur le style. On nous les pose pas comme ça. On a eu un gros écueil en France. Le style, pour les professeurs de français, on voit bien, on est tous passés par l'école et le lycée français. Ça n'a pas du tout la même tonalité dans les évaluations internationales. Alors là, j'y reviendrai aussi passablement. Bon, nos élèves, eh bien, ils ne gèrent pas suffisamment bien les tâches de lecture. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez attentifs aux consignes. Et ça, je l'ai trouvé dans toutes les évaluations sur lesquelles j'ai travaillé depuis longtemps, parce qu'il y a longtemps que je suis sur ce créneau de l'évaluation. Nos élèves, eh bien, on les voit bien faire en classe, hein. Je pense que ça va vous dire quelque chose. Ils lisent à peine la consigne et puis ils répondent. Ils sont pas tous comme ça, mais on en a quand même un nombre suffisant qui font comme ça. C'est-à-dire qu'ils vous donnent une réponse. Ils vont aller dans le texte, s'accrocher à un mot dans le texte parce que ce mot-là, il était dans la consigne. Ils vont appareiller le mot penser parce qu'ils ont vu un mot penser qu'il y a dans le texte. Enfin bref, je vais être caricaturale forcément. Mais en tout cas, ils ne vont pas confronter la réponse qu'ils trouvent, qu'ils écrivent, à la question qui a été posée. Enfin, il y a derrière tout ça des élèves qui ne savent pas forcément bien gérer les tâches, qui ne savent pas bien anticiper ce qu'ils vont chercher. Je reviens à cette définition de la métacognition. Ils ne vont pas anticiper ce qu'ils vont devoir chercher. Ils ne vont pas aller au-delà du texte. Ils vont s'accrocher au texte. Ils vont aller dans le texte alors qu'il aurait fallu élaborer, penser un petit peu aux enjeux. Oui, penser aux enjeux de la question, penser aux enjeux de la tâche. Alors, bon. Ce que je traduis par aussi un manque de flexibilité de nos élèves, hein, ils se représentent les tâches de manière un petit peu simpliste parfois. Alors bien entendu, je focalise sur des élèves qui sont pas forcément les meilleurs. Nous avons des élèves qui sont, dont on pourrait dire qu'ils savent bien planifier la tâche, qu'ils savent bien en cours de route revenir, changer de stratégie, etc. Mais on en a quand même un certain nombre que l'on piste aussi quand on regarde dans les évaluations internationales comment ils ont répondu. Alors bon, moi je traduis ça en disant que un certain nombre de nos élèves ont du mal à s'adapter à des contextes variés. Et bon, ça c'est indéniable, hein, c'est un des effets. Bon, Pierre a parlé des comparaisons internationales. On est quand même toujours en train de se demander qu'est-ce qu'on a évalué avec PISA. Et ça, moi, je ne suis pas encore au clair là-dessus, alors que j'ai quand même une pratique de PISA qui est un petit peu extensive, on va dire. Bon, notamment, on a des profils de réponses qui ne sont pas les mêmes selon les pays. On a des effets qui sont... certains items sont extrêmement bien réussis en France. Bon, la France avait proposé des exercices et des items. Ben, ceux-là ont réussi drôlement bien. Pas parce qu'on a entraîné nos élèves, mais parce que ça, c'est tout à fait dans notre culture. Hein. Bon, on a eu aussi, bon, tout ça s'arrange, hein, mais on a aussi des problèmes de traduction. Et tout à l'heure, Pierre mentionnait que quand on traduit, eh bien, il faut satisfaire à ce que j'appelle, moi, un certain triangle, c'est-à-dire traduire en même temps le texte, les questions et le codage, hein, pour que tout ça fonctionne bien ensemble. Eh bien, on a des défaillances, hein, parfois. Et puis, bon, il y a des réponses qui sortent du codage prévu et qui sont intéressantes. Nous avons aussi, avec une de mes équipes, recodé à notre manière des réponses d'élèves français. Il y a des choses que nous sommes en mesure d'accepter. Oui, c'est correct, ça serait correct. Mais bon, tel que c'était prévu dans les codages, on a rejeté des réponses qui témoignent pourtant de la logique de nos élèves. Nos élèves, eh bien, ils ne sont pas rentrés dans ce formatage prévu par les codages PISA. Pourtant, les cahiers de codage, Claire pourra en témoigner aussi, sont gros. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Si l'élève a répondu oui à cette question, mais a argumenté comme ça, ça comptera 2 points. S'il a répondu non, mais qu'il a argumenté comme ça, ça comptera 1 point. Bon, il y a aussi l'idée que Pierre n'a pas souligné tout à l'heure, mais sur laquelle que j'aborde là. On a des codages progressifs. C'est-à-dire que, contrairement à nos évaluations françaises, à un certain nombre de questions, on va avoir des réponses qui vont s'échelonner de 0 à 1, à 2, voire à 3 points. C'est-à-dire qu'on parle de score, là. Et comme dans les évaluations britanniques dont je parlerai demain dans l'atelier que je dirigerai, on est dans ces équations-là. C'est-à-dire que si l'élève a un point, eh bien, ça va traduire une mise en œuvre d'un processus pas très élaboré. Je vais le dire rapidement. Il ne fait pas preuve d'un processus très élaboré. S'il est à 2, bon, c'est déjà un petit peu mieux. À 3, il domine parfaitement la compétence en jeu dans cet exercice, à cet item. Chaque item était classé, a été affecté à une compétence. Alors bon, je continue parce que j'ai dit tout à l'heure que je voulais faire des ponts avec d'autres évaluations, et je vais aller vers cette comparaison. Alors Pierre, tout à l'heure, alors je vous ai dit qu'il y avait 36% d'élèves de 3e en 2000 dans PISA. Hein. Moi, je me suis interrogée à qui sont ces élèves. Ils ont 15 ans, ils ont un retard scolaire, pour certains. Oui, ils ont un retard scolaire, en tout cas. Et alors, j'ai cherché à voir quel pont on avait avec ce qu'on a en magasin en France. Et la seule chose que j'ai trouvée comme pont, c'est l'exploitation d'une évaluation bilan qui a été passée en juin 2003 en fin de collège, qui a été publiée par l'ADEP en 2004 et qui n'a pas eu grand écho. Pierre a montré tout à l'heure les échelles de compétences. Bon, l'ADEP en 2003 a fait passer en fin de collège une évaluation bilan. Alors, elle a fait preuve d'une grande intégration de la méthodologie de PISA. L'ADEP a basculé vraiment dans l'élaboration à la PISA. Pierre, bon, je ne veux pas m'engager dans les histoires statistiques sous l'œil de Pierre. Je ne veux pas être évalué là-dessus et Pierre le dirait beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, bon, on a fait une évaluation à la PISA autour de 3 grands domaines de compétences. Hein, prélever l'information, organiser l'information prélevée, exploiter l'information de manière complexe autour de 4 champs disciplinaires. Ce que l'on voulait évaluer, c'est la maîtrise de la langue et du langage en fin de troisième. Ça a été fait en fin de CM2 aussi. Alors, l'ADEP, ayant quand même un grand souci d'économie, n'a fait passer que des QCM, parce que les QCM, ça se dépouille mieux. Ça, c'est ma... Il n'y a pas eu de réponse construite, donc j'ai pas pu aller regarder comment répondaient les élèves. Bon, en fait, bon, moi j'ai cherché à établir un pont parce que c'était la seule manière d'éclairer les résultats des élèves à PISA. Alors, Je ne dis pas que c'est la même chose, mais je donne quelques exploitations. Alors voilà. Bon, à cette évaluation fin de troisième, qu'est-ce qu'on retrouve ? La même hiérarchie qu'à PISA. Eh bien, il y a 82% des élèves qui savent prélever l'information. Il y a 82% de réussite à la fin de troisième. Alors quand il s'agit, bon, c'est beaucoup, vous irez lire cette note d'information, hein, c'est beaucoup plus complexe que je rapporte là. Il y a 65% des élèves qui répondent correctement quand il faut organiser l'information, c'est-à-dire, croiser des items, hein, par exemple, et il y en a 54% qui savent l'exploiter correctement. Alors, ce que je relève, hein, bon, il y a, comme ce que j'ai montré à PISA tout à l'heure, il n'y a pas 5 niveaux, mais il y a 6 niveaux cette fois-ci, 6 groupes d'élèves qui ont été constitués, 6 groupes de performance. Et ce que l'on voit, eh bien, ce sont des écarts de performance absolument considérables au travers de ces groupes. Alors, je vais m'intéresser maintenant à quelque chose qui nous affecte quand même, hein, que Pierre a énoncé tout à l'heure, c'est le redoublement. Bon, il y a 6 groupes, hein, qui sont numérotés de... Les élèves sont ventilés en 6 groupes, c'est-à-dire le groupe 0 d'élèves qui a peu de compétences, hein, en matière de maîtrise de la langue, le groupe 1 qui n'en a pas beaucoup, hein, je vais le dire comme ça, puis à l'opposé, on a le groupe 4 et le groupe 5 qui sont des élèves qui dominent bien la maîtrise de la langue. Alors, quand on s'intéresse au redoublement, c'est mon seul point d'entrée, ma seule comparaison possible avec PISA, je n'ai pas dit que c'était la même chose, encore une fois. Eh bien, quand les élèves qui n'ont jamais redoublé, eh bien, il y en a 36% qui sont dans les groupes de compétences élevées. Il y en a 8% qui sont dans les groupes faibles. Bon, quand on s'intéresse au cursus, on va dire, je vais le prendre par le bas du cursus, il y a 42% des élèves qui ont redoublé en primaire, 42% des élèves qui ont redoublé en primaire, qui sont affectés aux groupes les plus faibles. 42% des élèves qui ont redoublé en primaire. Ceux qui ont redoublé en sixième, eh bien, ils sont aussi à 31% dans les groupes les plus faibles. Bon, vous voyez un peu le genre du tableau. Tout ça pour dire que plus le redoublement a été précoce, moins nos élèves atteignent des hauts niveaux de performance. Et je crois qu'au travers de... Bon, ça, je l'ai publié ça dans deux revues de cette maison, dans Repères d'il y a quelques années et dans la Revue française de pédagogie, où j'épluche un peu plus que ça. En tout cas, ça en dit assez long sur l'hétérogénéité de ces élèves qui sont en troisième, qui entachent notablement les résultats à PISA. Je pense que si on regardait sur les maths, on aurait les... Bon, c'est les mêmes élèves, hein. Autrement dit, le poids du redoublement a fortement pesé sur les résultats de PISA. Ça doit être pareil en mathématiques, ça doit être pareil en sciences. Et je crois que cette analyse... on a du mal à la faire parce que, bon, on n'a pas beaucoup de possibilités, si ce n'est que de mettre côte à côte des articulations, bon, un petit peu. Je dois vous dire que j'ai eu du mal à avoir les données sur le redoublement et je ne les ai eues que parce que j'ai des relations privilégiées avec l'ADEP. Hein. Ce n'est pas publié en tant que tel. Hein. Alors, bon, je terminerai cette première partie sur PISA et puis cette prudence sur le redoublement, sur l'interprétation des résultats, en disant attention. Bon, j'ai essayé d'établir une complémentarité entre ces évaluations, mais attention, il faut replacer les résultats dans leur contexte de production. Autrement dit, attention, n'exploitons pas directement des évaluations qui n'ont pas d'intention pédagogique. Je vous rappelle, mes chers collègues, que PISA, que l'évaluation bilan fin de troisième ou l'évaluation bilan fin de CM2 sont des évaluations sommatives, des évaluations qui sont là pour piloter, qui sont à destination du politique, et que peut-être qu'on peut en tirer des enseignements pour la classe, mais ce n'est pas la première intention, et je pense que Bruno reviendra aussi sur ça tout à l'heure. Ce sont des éléments qui ont amené à des dérives. On a utilisé des évaluations pour ce qu'elles n'étaient pas censées faire. Alors, bon, je dirais, j'ai mis en gras des termes, pas par hasard, bien évidemment. Je dis qu'il faut peser les apports des évaluations et se garder des généralisations abusives. Voulons-nous être jugés à l'aune de PISA et perdre nos spécificités ? Alors, entraînons nos élèves à faire du PISA. Pierre l'a dit tout à l'heure, je vous rappelle quand même qu'il y a un certain nombre de pays, et il y en a beaucoup, qui n'ont pas d'évaluation dans leur pays, qui n'ont pas d'évaluation, on va dire, nationale, qui n'ont pas de structure évaluative. Et dans cette salle, nous sommes à quelques-uns à être allés dans des pays divers, aider à la mise en place d'évaluations nationales. Mais il y a des pays qui n'ont aucune culture de l'évaluation, qui ne s'interrogent pas là-dessus parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et puis parce que c'est peut-être pas leur philosophie non plus. Donc, attention. Alors, je vais continuer maintenant en tricotant toujours des évaluations vers ce que j'appelle une jeunesse de la littératie. Je me suis dit, après tous ces résultats-là, remontons un petit peu en amont et puis voyons ce qu'on a en magasin depuis un certain nombre d'années qui pourraient être des points d'éclairage. J'ai vu qu'il y avait des IEN dans la salle et d'autres. Bon, j'ai une culture très premier degré. Hein. Je travaille depuis longtemps sur le premier degré, sur la compréhension, l'enseignement de la compréhension, sur l'évaluation. Et en tout cas, qu'est-ce qu'on voit au travers d'un certain nombre de dispositifs et qui nous permet. Alors bon, en disant une jeunesse de la littératie, c'est vrai que je suis un peu embarrassée parce que littératie, ça s'applique à partir de quand, hein. Ce concept, moi, je ne sais pas bien où il va, hein, où il s'ancre, mais en tout cas, on a l'air de nous faire penser que la littératie, ça serait déjà valable en CP, hein, quelque part, hein, ce qui est sans doute un abus fort. Je parlais de l'enquête tout à l'heure, je vais parler de cette enquête aussi internationale qui a été passée en France et dont qui n'a pas eu beaucoup d'écho. Alors, les sources que je vais utiliser, eh bien, ce sont les évaluations diagnostiques CE2 6e dont Bruno parlera tout à l'heure. Bon, j'ai le Haut Conseil de l'évaluation qui est en place en ce moment, m'avait demandé de faire une expertise qui a servi à un des documents. Je vais rapporter quelques éléments qu'il y a là-dedans. L'Observatoire de la lecture a publié l'année dernière aussi quelque chose sur l'entrée au collège. Je ne sais plus exactement le titre. Mais il y a dedans, j'ai aussi fait un article dedans où vous retrouverez ces chiffres. C'est pas pour vanter toutes les publications, mais je veux dire, si vous avez besoin de ces chiffres, vous les retrouverez. Et je me suis aussi basée sur les évaluations bilan fin de CM2 que j'ai déjà citées, et sur l'évaluation PIRLS, qui est une évaluation internationale menée par l'IEA, qui a été passée en France en CM1, en 2001 et en 2006. Alors, on en a parlé un petit peu parce que les résultats en 2006 sont parus en même temps que PISA. Mais en 2001, on avait beaucoup de résultats qui sont passés sans qu'on en parle, ou à peine. Madame Peretti, qui était directrice de l'évaluation à ce moment-là, enfin qui était directrice de l'ADEP, avait fait une conférence de presse, mais ça n'a eu strictement aucun écho. Pourtant, dans ces résultats CM1, on avait une grande richesse. Hein. Ça nous dit beaucoup de choses sur ce qu'est le système éducatif déjà en CM1. Alors, voilà. Bon, fin de cycle 3, je dis tout ça rapidement. Hein. Voilà ce qu'on a. On sait, je l'ai déjà dit tout à l'heure, que nos élèves savent assez bien prélever l'information. Mais ce prélèvement d'information, ça marche plus ou moins bien selon les questions et la difficulté des questions. Selon la familiarité, la prégnance des informations. Bon, s'agissant de compréhension globale du texte, eh bien, vous voyez, il y a des variations. Bon, c'est mieux que la moyenne. Quand il faut construire des informations basées sur le texte, eh bien, c'est entre 50 et 70%. Je vous rappelle, chers collègues, que quand nous sommes dans nos évaluations françaises, il s'agit généralement, et je vais le dire comme ça, de petits textes et de petites tâches. Dans les évaluations internationales, on travaille sur des choses beaucoup plus longues, avec beaucoup plus de questions, ce qui explique aussi peut-être que nos élèves soient perdus. Alors, là, le traitement de l'implicite, eh bien, quand on est dans nos évaluations nationales, on va dire, franco-françaises, on a moins de 50% de réussite, hein, quand on s'interroge à l'implicite du texte. Et alors, ce qui a été possible dans les évaluations 2003, c'est de travailler sur des évaluations de compréhension de l'oral ou de compréhension de l'écrit, comme dans les évaluations CE2, 6e, depuis quelques années. En tout cas, quand on leur lit le texte, les élèves plus faibles le comprennent mieux. Ils ont moins d'opérations mentales. Alors, leur mémorisation apparemment marche pas trop mal. Ils ont moins d'opérations mentales à mener, de charges cognitives à mener. Mais est-ce que c'est de la lecture qu'on évalue ? Ils comprennent de l'oral, mais est-ce que c'est pareil que de comprendre de l'écrit ? Moi, je m'interroge. Enfin, en tout cas, j'ai fait là des ponts, encore une fois. Hein. J'aime bien essayer de restructurer les informations, de les mettre en cohérence. Ce que l'on voit, c'est qu'en fin de CM2, à cette évaluation bilan 2003, eh bien, on a 30% de nos élèves qui maîtrisent les prélèvements d'informations. D'accord, mais dès qu'il faut mettre en œuvre des capacités d'analyse ou de synthèse, eh bien, ils ont des difficultés. Là, j'ai fait un groupe. Ils maîtrisent le prélèvement d'informations, mais ne savent pas analyser, ne savent pas synthétiser. Je pense que ces capacités d'analyse sur lesquelles je mets l'accent, ou de synthèse, jouent dans d'autres disciplines, enfin dans d'autres lieux que la lecture en français, on va dire, hein, dans la discipline française. Alors ce que l'on voit, ça c'était dans ce que Pierre a montré en rose hein, tout à l'heure, ceux qui sont en haut de l'échelle, là, dans les hauts niveaux, dans les groupes élevés de compétences, dans les groupes 4 et les groupes 5, il y en a 37% qui maîtrisent les compétences attendues fin cycle 3. Ces évaluations ont été construites basées sur les programmes. Il y en a 37% qui maîtrisent les compétences attendues. Alors ceux-là, ils ont des bonnes capacités inférentielles et interprétatives qui sollicitent l'analyse et la synthèse. Nous sommes au CM2. Alors maintenant, je vais me pencher un instant sur cette évaluation PIRLS. Alors elle a porté sur des textes informatifs et sur des textes narratifs, des textes informatifs qui étaient dits des textes pour apprendre et des textes pour lire, pour le plaisir, enfin, etc. Bon. Ce que l'on voit, c'est que là, on a un quart des élèves en CM1, élèves sur échantillon, hein, qui disposent de bonnes capacités inférentielles et interprétatives. Alors, je m'autorise quand même à dire que les évaluations internationales, même si elles n'évaluent pas la même chose, elles nous disent des choses sur nos élèves. Et je crois que vraiment, il faut s'interroger sur ce qu'on construit j'y reviendrai tout à l'heure, sur la manière dont on travaille la lecture, la compréhension en France. Alors, bon, je me suis quand même autorisée à une petite comparaison internationale. Chez les Anglais, on a 45% des élèves, il s'agissait, j'ai oublié de le dire, d'une évaluation à 10 ans. Hein, ça correspond à... Ça a été passé en classe de CM1 en France. Les petits Anglais, ils réussissent à 45% à être au niveau les plus élevés de compétences et à 41% en Suède. Bon, je ne cherche pas à dire qu'il faut qu'on soit comme les élèves anglais, comme les élèves suédois, mais en tout cas, il faut s'interroger sur ce qui fait... que nos élèves rencontrent autant de difficultés dans des tâches inférentielles et interprétatives. Voilà, ce pont étant fait, en tout cas, je vais dire quelques bricoles sur les stratégies de réponse qui viennent justement de ces analyses de contenu. Et je ne sais comment vous inviter, vous, à votre niveau, à dire aux enseignants, regardez comment les élèves ont répondu, analysez comment ils ont répondu, ça vous dira beaucoup de ce qu'ils sont. Alors, les stratégies de réponse, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, nos élèves, dans PISA, quand on regarde le contenu des réponses écrites, ils ont tendance à faire du prélèvement d'informations, de l'échantillonnage, même quand il faut élaborer une réponse. Alors, ils ont un manque d'autonomie claire dans la tâche, hein, et puis ils ont des représentations figées de la lecture, je l'ai déjà dit. Bon, au total, eh bien, je l'ai déjà dit aussi, ils ciblent préférentiellement l'information, ils ne font pas assez appel à leurs connaissances, hein, c'est mon dernier item, ils ne font pas suffisamment appel à leurs connaissances en général, et je pourrais vous entretenir longuement sur ce qu'il y a dans connaissances. Hein. Ils ne se représentent pas suffisamment les enjeux de la lecture, ils ont des représentations erronées de la lecture et des tâches, hein. Et puis, ils n'établissent pas des ponts entre des situations. On le voit très très bien quand on travaille avec des élèves même très jeunes. Hein. On est dans une tâche et ils ne pensent pas « Ah ben ça fait partie de la lecture, disent-ils quand on travaille avec eux un petit peu. Ah ben, j'y avais pas pensé. » Bon, en tout cas, tout ça est très, on va dire, est très cohérent. Hein, tout ça, finalement, va ensemble. Et c'est pas simple. Il y a un faisceau d'informations. Alors là, bon... Ça, c'est ma petite liste personnelle. Hein. Ce n'est pas les travaux de l'ADEP. C'est au travers de travaux de recherche que nous avons conduits les uns et les autres en France, en Suisse, dans d'autres pays, en Angleterre, aux États-Unis aussi. On voit bien qu'on a un certain nombre de causes en plus de, ou avec ce que j'ai déjà élaboré, de causes de l'hétérogénéité, hein, en compréhension en cycle 3. Bon, bien sûr qu'il y a des élèves qui ont des problèmes de lecture de mots, que l'on n'évalue pas trop au travers de toutes les évaluations qu'on met en œuvre dans des grands dispositifs. On a des élèves qui ont des problèmes de capacité cognitive, de mémoire, d'attention, et je pourrais en dérouler un petit moment. On a aussi des élèves, alors ils n'ont pas tous toutes ces maladies à la fois, hein, mais en tout cas, il faut s'interroger sur les difficultés qu'ils rencontrent dans des opérations cognitives qui reposent sur des petits mots et ce que j'appelle des petits mots, des graves erreurs. On voit bien des élèves, et je vous en donnerai tout de suite un exemple, pour qui, depuis et puis, c'est la même chose. Là, selon que c'est un article ou un pronom personnel objet, on ne fait pas trop la différence. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois des connaissances qu'on ne mobilise pas, de problèmes de gestion de la tâche et de représentation erronée. Tout ça pour dire que je crois qu'il faut qu'on soit très alerté, hein, quand on construit des évaluations sur toutes ces difficultés. Bon, quand on construit des évaluations et quand on fait la classe, j'aurais dû le dire aussi, parce que j'ai quand même une conception de l'évaluation qui est plutôt pour les apprentissages qu'autre chose, vous l'avez perçu. Alors, je l'ai déjà dit là, je voudrais aller plus loin que tout ça. Bon, est-ce que les élèves savent vraiment ce que c'est comprendre un texte? Et puis, est-ce qu'ils ont des vrais problèmes de compréhension à traiter? Alors, j'ai aussi dépouillé... il y a eu des questionnaires sur les pratiques pédagogiques déclarées. Il y a eu un gros questionnaire qui a été fait par l'intermédiaire de Pearls qui n'a pas du tout été exploité en France. Et c'est vrai qu'il fallait aller détricoter un gros pavé publié par l'IEA. Alors, ce que l'on constate, hein, eh bien, c'est que nos enseignants français... Alors, pratiques déclarées, hein, avec tout ce qu'il faut comme précaution, hein, mais quand même... qui diront des choses à un certain nombre d'entre nous, eh bien, nos enseignants, peut-être ont-ils peur, sont-ils prudents, en tout cas, ils déclarent qu'ils passent un temps de lecture bien inférieur à celui de la moyenne nationale. Ce qu'ils déclarent comme temps, c'est bien inférieur à la moyenne nationale. Ils disent aussi qu'ils travaillent, et ça, on le voit dans les classes, hein, surtout sur des textes de fiction. Pourtant, nos élèves réussissent mieux les items qui sont de nature de type informatif. Bon. Alors, ce que l'on observe aussi, c'est des tâches trop peu variées, et ça, je crois que les évaluations montrent que dans les classes, on pratique des évaluations, des tâches trop peu variées d'évaluation ou de travail tout court. Ce que l'on voit aussi, c'est dans ces pratiques déclarées, c'est de rares adaptations du matériel au profil de l'élève. Et puis, ce que l'on voit aussi, alors là, ça est clair, hein, ce sont des enseignants qui disent pratiquer un questionnement à l'oral, mais rarement à l'écrit et rarement en pratiquant ce que nos programmes 2002-2003 appellent le débat interprétatif. Hein, c'est-à-dire qu'on ne met pas beaucoup en commun. On ne cherche pas beaucoup à travailler sur les justifications. Et là, quand on travaille sur les justifications, on est bien dans quelque chose qui va demander d'aller voir dans le texte comment se structure cette information. Et puis, finalement, on fait peu de tâches qui contribuent au niveau de compétences. Alors, je vous dis, ça est clair, hein, quand même. Alors, bon, je vais basculer dans l'exploitation des erreurs. Je vais peut-être pas pouvoir finir, mais bon. Bon, je voudrais quand même donner quelques pistes pour aller s'embarquer dans l'exploitation des erreurs, pour les comprendre. J'en ai déjà dit un certain nombre de choses. Bon, moi, je déclare... que très souvent, les erreurs sont fructueuses et nous permettent de comprendre le fonctionnement des élèves. Alors, comme Pierre a mangé beaucoup de temps, je ne peux pas dire beaucoup. Hein. Alors, voilà. Bon, j'ai pris un exemple d'un item qu'il y avait dans Pearls, et puis je vous ai retranscrit une réponse d'élève. C'est pas une trop vilaine, on arrive à la lire. Alors, vers la fin de l'histoire, le lion essaie de rassurer le lièvre. Il y a vu, c'est un conte, hein, où il y a un lièvre, le chef des lièvres qui a emmené toute la communauté des lièvres en haut d'une colline parce qu'il a entendu un grand bruit. Et puis, ce grand bruit, c'était une noix de coco qui était tombée d'un arbre. Et le lièvre rencontre un lion qui le rassure, enfin, etc. Le lièvre avait très peur que ce soit un tremblement de terre. Et il faut que les élèves trouvent deux exemples de la façon dont il s'y prend. Alors, le « il » étant le lion. Alors, voilà une réponse. Le lion rit parce que ce n'est pas un tremblement de terre. Le lièvre a été déçu. Il a eu le courage, a dit à ses amis. Bon, bref. En tout cas, là, on voit quelque chose qui nous éclaire sur comment l'élève a compris deux exemples. Hein. Il donne un exemple de chaque personnage. Bon, quand on regarde en anglais, je n'ai pas mis la version en anglais là, mais il n'y a pas d'ambiguïté. Mais là, il y a une belle ambiguïté qui est apparue avec le « il », qui pose le problème. Alors, qui c'est ce « il » en anglais, le « il » est clairement, se réfère carrément au lion. Quand on est dans des évaluations internationales, en principe, on ne travaille pas un certain nombre de marqueurs linguistiques parce que certaines langues ne les ont pas, et notamment, en principe, on n'a pas à traiter un pronom. Là, ce que ça dit, c'est que c'est un élève qui s'est accroché à la difficulté d'interprétation de ce « il ». Et ça, on en a un certain nombre d'exemples. Alors voilà, il faut s'interroger là-dessus. Bon, dans mes propres recherches, on a eu par exemple des élèves qui s'interrogent sur, dans un texte, qui c'est Hermine ? Est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille, comme disent les élèves ? Alors voilà, une justification qu'on a, bon, elle est très parlante. J'ai mis des choses en gros. C'est un garçon. Parce que c'est Hermine, lui, tape pas dans le dos. J'ai un peu accentué. Pour une fille, ce serait écrit « tape ». Bon, à un autre moment... Ariel, si ce serait un garçon, ils auraient écrit « Ariel dessine lentement ». Bon, là, je suis clairement dans du métacognitif. C'est-à-dire qu'on est clairement dans des élèves qui utilisent des règles. Hein, qui utilisent des règles. Alors, le féminin et le masculin, c'est régi par des « e », par des « a », hein, par le « le », par le « la », mais sauf qu'ils appliquent ces indices de manière complètement erronée, c'est-à-dire qu'on est dans un cas, dans de la connaissance déclarative, que l'on applique à du... On est dans de la connaissance procédurale appliquée à mauvais escient. Hein. En tout cas, là, on voit bien que quand on analyse les erreurs des élèves, alors je vais dire de manière fructueuse, eh bien, on arrive à travailler... Alors, là, le Hermine, ça s'est rectifié dans la classe. Il y a des élèves qui ont expliqué que ça marchait pas comme ça. Bon, ce que je vais dire aussi, c'est que l'on a... Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Les performances de nos élèves sont très modulées par l'habillage des items. Alors voilà, quand on travaille sur la causalité, nos élèves ont du mal, souvent, à expliquer la causalité. Mais quand on leur donne des guides, eh bien, ils s'en sortent très, très bien. Là, on a une consigne où on leur demande... Les questions sur les sentiments, c'est pas simple... On leur demande d'être capable d'expliquer pourquoi les sentiments du lièvre ont changé. Et quand on leur donne ce guidage avec le « parce que », il y a une double question. Ils réussissent très bien, nos élèves. Ils dépassent même la moyenne internationale. Mais si on leur dit « les sentiments du lièvre changent pendant l'histoire » et qu'on leur donne un énoncé où ils doivent eux-mêmes répondre, eh bien, ils ont les plus grandes difficultés. Bon, tout ça pour vous dire que l'évaluation, c'est pas une chose simple. Bon, tout ça, je vous l'ai déjà dit, je n'y reviens pas, mais en tout cas, je reviens à mon titre, c'est qu'il faut absolument inférer l'origine des erreurs pour réduire le décalage constaté entre quoi ? Eh bien, entre ce que l'on attend comme performance et la performance observée, et je ne sais pas si j'aurai le temps d'y venir, mais en termes d'évaluation, c'est quand même une des premières choses qu'il va falloir se poser comme question. Qu'est-ce que j'évalue? Qu'est-ce que j'attends? Un de nos enjeux dans la classe, c'est de réduire le décalage. Et Romuald en parlera. Alors voilà, je vais terminer rapidement, mais on y reviendra demain si nécessaire ou à un autre moment. Quel est le quid de l'évaluation? Pour moi, et Romuald devant en parler aussi, je donne la parole à tout le monde. Mais on a fait que se renvoyer la balle depuis ce matin. Bon, pour moi, et pour vous, je le pense aussi, l'évaluation, c'est une partie intégrante de l'apprentissage. Alors, bon, l'évaluation, même si on parle d'évaluation sommative et tout ce qu'on veut, c'est quand même une notion à clarifier. Et je crois que le socle commun de compétences nous engage fortement à la clarifier, même si ce n'est pas dit comme ça. Bon, en tout cas, l'évaluation, il va falloir préciser ses fonctions et ses exploitations, et je vais essayer dans le peu de temps que j'ai d'en parler. Alors, il y a une première chose, mais Romuald devait en parler. Hein, et j'ai repris un peu la terminologie de nos collègues britanniques, mais qui est aussi insufflée dans le socle commun, il faut cerner le but de l'évaluation. Est-ce qu'on va évaluer, faire une évaluation de l'apprentissage, c'est-à-dire rendre compte de ce qui a été appris, ou est-ce qu'on va faire une évaluation pour les apprentissages, pour faire progresser cet apprentissage? Bon, je vais vite, mais vous allez avoir de la redondance tout à l'heure et au cours de ces journées. Bon, en gros, est-ce qu'on évalue pour certifier dans le livret de compétences? Est-ce qu'on évalue pour ajuster, pour réguler les apprentissages? Alors, bon, là, je vais rentrer dans l'évaluation, ce qu'elle doit être. Hein. Bon, je ne vais pas le dire en termes de psychométrie, mais en tout cas, je vais dire que quand on évalue, il y a un certain nombre de préoccupations que nous devons avoir. Alors, il faut assurer la qualité de l'évaluation et pas faire du bricolage. Bon, évaluer, c'est rendre un jugement de valeur. Évaluer, c'est rendre un jugement de valeur, et j'insisterai là-dessus. Et c'est situer un objet sur une échelle de valeur. Alors, bon, dire que c'est rendre un jugement de valeur et qu'il faut situer sur une échelle de valeur, j'ai commencé par ça parce que je crois que c'est une des choses les plus flagrantes que l'on observe, c'est qu'on évalue sans savoir ce qu'on évalue, quand même assez souvent. Et bon, la première des choses qu'il faut faire quand on évalue, c'est définir l'objet qu'on va évaluer. Alors ça, je crois que les évaluations internationales, alors, elles ont quand même des bénéfices. Elles nous le rappellent. Dans chaque évaluation internationale, il y a toujours ce qu'on appelle une framework, et il y a toujours la définition de ce qu'on va évaluer, c'est-à-dire on va évaluer la lecture, on va évaluer les mathématiques, je le dis vite, hein, mais qu'est-ce qu'on va évaluer, sur quelle définition va-t-on se baser, est-ce qu'on va évaluer le décodage, est-ce qu'on va évaluer la compréhension, enfin bon, je le dis très vite, mais bon. Et pour faire cette évaluation, eh bien, il va falloir mettre en œuvre des outils, le terme outil étant sûrement pas la meilleure mention, mais en tout cas, une mention qu'il faudra éclaircir là aussi. Et alors, mes chers collègues, et j'ouvre la porte à Bruno tout à l'heure, eh bien, ces outils vont nous donner un certain nombre d'éléments qu'il va falloir coder, et il va falloir les interpréter. On va avoir des données dont il va bien falloir faire quelque chose. On ne va pas évaluer pour évaluer, mais on va évaluer pour en faire quelque chose, qu'il s'agisse d'évaluation certificative ou qu'il s'agisse d'évaluation pour les apprentissages. Bon, ça va être redondant, on va le redire. Alors, moi, je parle d'évaluation profitable. Évaluer, c'est assurer la qualité de l'évaluation, et évaluer profitablement, ça veut dire comparer à la norme qu'on s'est fixée, comparer la démarche de l'élève pour piloter les processus d'acquisition. Piloter les processus d'acquisition en exploitant les erreurs fructueuses, j'y tiens beaucoup, et puis en inférant l'origine de ces erreurs, je l'ai déjà dit, mais en tout cas, il me semble qu'on est là en plein au cœur des apprentissages et dans la régulation des apprentissages. Vous me direz que la tâche est rude parce qu'il va falloir les construire, ces outils. Alors, toujours est-il que, bon, il va falloir construire ces outils. Je vous l'ai dit, préciser les compétences visées, analyser le contenu du matériau, l'énoncer, la clarté des consignes, j'ai derrière quelque chose qui revient là-dessus. Et puis, alors, analyser la difficulté de l'item. Quand on se promène dans les classes, eh bien, on voit bien que ce soit les stagiaires et même certains enseignants qui sont très au clair, eh bien, ils n'ont pas prévu à quel point ce qu'ils demandent aux élèves va être compliqué. Ils n'ont pas anticipé la complexité des opérations à mettre en œuvre. Ils n'ont pas anticipé, pour parler comme les psychologues, et c'est pour me démarquer de la classe, les processus qui sont requis pour résoudre la tâche. Ils ont bien regardé quelles notions on évalue, mais pas du tout au travers de la consigne qu'ils posent, tout ce qu'il y a à mettre en œuvre pour y arriver. Et quand on le fait faire dans des stages, eh bien, les enseignants se rendent compte que ce n'est pas si facile qu'ils le pensent. Alors, il faut aussi, et ça c'est au travers du codage, il faut aussi anticiper au mieux les réponses. Et puis, je vais dire tout de suite, et je crois que je l'ai dans la diapo plus loin, envisager une tolérance, c'est-à-dire il y a une bonne réponse, des bonnes réponses possibles, et puis il va peut-être falloir avoir un codage ouvert. Bon, si on est en QCM, ça va peut-être être plus contraint. Alors, bon, moi, j'insiste beaucoup sur des paramètres de l'évaluation. Hein, bon, tout ça est redondant. peut-être que je n'ai pas su condenser, mais quand même, je crois qu'on va se poser des questions sur quel format de question je vais employer. Est-ce que ça va être une question fermée en QCM ou une question ouverte? Et quand on est dans des QCM, eh bien, il va falloir qu'il y ait suffisamment de modalités. Hein. Un QCM, ce n'est pas oui-non. Hein. C'est un QCM, c'est aussi choisir ce qu'on appelle une bonne réponse et des distracteurs. Et parmi les distracteurs, il faut qu'il y ait des distracteurs pertinents. C'est-à-dire que l'élève va se tromper, mais est-ce qu'il se trompe tellement ou pas? Il faut trouver les bonnes modalités de réponse. Alors, bon, il va falloir aussi estimer la difficulté de la tâche. Alors, au travers de tout ça, qu'est-ce qu'on lui demande d'identifier? Est-ce que ce qu'on lui demande de faire, c'est très simple ou c'est une tâche très, très, très complexe ou pas trop très complexe? Bon, j'ai pas le temps de passer beaucoup de temps là-dessus. Mais là, je vais être très, très dure à notre égard et à l'égard de l'élève aussi. Bon, il va falloir réfléchir au statut du questionnement. Alors, j'ai appelé celui qui fait les questions l'évaluateur. Hein. Alors, bon, l'évaluateur, il va faire des questions. Et j'ai employé exprès le mot « l'évaluateur va devoir calculer ». Alors, je ne sais pas si c'est l'énonciation ou un autre mot, mais moi, je le dis comme ça. Il va devoir calculer l'énonciation de sa question, c'est-à-dire calculer l'ordre des... réfléchir à l'ordre des mots, à la visée de sa question. Est-ce que c'est une tâche de résolution de problème? Est-ce que je vise les connaissances? Est-ce que je vise la compréhension? Etc. J'insiste beaucoup sur l'ordre des mots. Quand on dépouille beaucoup de réponses des élèves, ou quand on regarde des questions avant même que d'avoir vu comment répondent des élèves, on voit bien des obstacles qu'il va y avoir, ou les facilitations. Bon, on voit bien que quand dans les premiers mots, on fixe la tâche, on guide, eh bien, on va faciliter, on va permettre à l'élève de ne pas se perdre, ou à celui qui répond, on lui fixe la tâche. Alors bon, moi j'appelle ça dans un de mes papiers, eh bien, une espèce de règles de structuration de l'information, de règles de l'ordre des mots quand on écrit des questions. Bon, je crois qu'on a des devoirs quand on est dans cette rédaction de questions. Mais de l'autre côté, notre élève qui va se retrouver face à nos questions bien écrites, eh bien, il va devoir se représenter le type d'information requis. Et d'abord, je crois qu'il va falloir que nos élèves se disent qu'ils doivent lire les questions, qu'ils doivent savoir les reformuler, qu'ils doivent savoir anticiper les réponses. Vous allez me dire qu'on n'est pas dans ça quand on est en train de faire de l'évaluation, mais ma foi, je crois qu'on peut travailler autour, pas de l'évaluation directement, mais autour de ce qu'on leur demande. Et puis l'élève, il doit aussi savoir qu'il doit mobiliser ses connaissances. Alors, j'appelle mobiliser ses connaissances, y compris dans le type d'appariement. Bon, est-ce que ce que je vais chercher, je vais trouver la réponse dans le texte? Est-ce que je vais devoir dépasser le texte? Bon, au travers de tout ça, je dépeins des situations qui ont trait à l'évaluation, mais aussi au travail dans la classe, hein, sur la compréhension et sur d'autres éléments. Hein. Alors, ça sera pour Romuald. Hein. L'évaluation pour les apprentissages, c'est une compétence essentielle pour les enseignants, mais je voudrais quand même boucler sur le socle commun. Hein. Alain Houchaud, dans son rapport qu'il a commis avec quelques collègues en début d'année sur les livrets compétences et autres choses qui tournent autour du socle commun, il propose une conception dynamique de la compétence. Alors, je ne me suis pas égarée sur compétence, ce magnifique concept polysémique qui alimenter des tonnes de littérature. Enfin, en tout cas, Alain Houchaud nous invite à nous recentrer sur les processus d'apprentissage. Je n'ai pas consulté Alain Houchaud pour faire ce travail et nous n'avons pas les mêmes cultures. Et je crois que je vous ai beaucoup invité à vous recentrer sur les processus d'apprentissage à la manière des psychologues ou à votre manière. Bon, Alain Houchaud, dans ce rapport, propose aussi de développer et de coordonner les différentes fonctions d'évaluation pour favoriser la réussite des élèves. Je n'ai fait qu'un condensé extrêmement rapide, hein, et j'ai trouvé aussi les termes « évaluer pour valider »,« évaluer pour enseigner »,« trouver des cohérences entre évaluation et situation d'apprentissage. Bon, je ne vous dis pas que nous avons les outils pour faire tout ça, ni même les concepts qui nous permettraient d'avancer. Puis j'ai essayé de terminer sur ce qu'on a sur le socle. Je dois vous dire que j'ai fait une intervention il y a 15 jours sur l'évaluation du socle commun, et j'avais espéré que nous aurions beaucoup de documents, et nous n'en avons quand même pas beaucoup. Ce que nous avons, bon, c'est les programmes qui sont en vigueur actuellement, les grilles de référence et du SCOL, où on a essayé de nous expliquer comment on allait pouvoir aller vers l'évaluation, et puis le document d'Alain Houchaud. Bon, ce qu'on nous demande dans le socle et les évaluations que j'ai mises au pluriel, c'est de certifier progressivement des paliers. Pour la maîtrise de la langue, eh bien, on va commencer au palier 1 et aller jusqu'au palier 4. Je cite les grilles de référence et du SCOL, où l'on dit, et bon, moi je m'interroge beaucoup au travers de tout ça, qu'il faut évaluer à plusieurs reprises, qu'il faut évaluer dans des situations de classe ordinaires, que des évaluations ne sont pas des exercices. Bon, moi je me pose des questions sur... Il y en a plus que ce que j'ai écrit là. Sur les définitions de l'évaluation, sur les contenus que l'on va évaluer, sur les situations, sur le nombre d'observations qu'il va falloir faire. On n'est pas du tout au clair. Et alors, bon, Jean-Louis de Rouet, tout à l'heure, a introduit l'idée de comparaison, de protocole européen, etc. La notion de comparabilité n'est pas très présente dans les textes du socle, faut-il qu'elle le soit. Alors c'est la dernière diapo, puis j'ai dépassé l'heure, vous me le pardonnerez. Dernière diapo, en tout cas, moi je ferai quelques propositions ou j'aurai quelques avertissements. Je crois qu'il va falloir envisager des réseaux de questionnement. Au travers du document et du SCOL, on voit par exemple qu'on va évaluer plusieurs fois des choses qui tournent autour des personnages dans les textes. Alors on va l'évaluer, allez, je vais le dire rapidement, pour la grammaire, on va l'évaluer pour la compréhension. Bon, moi je crois qu'on ne va pas pouvoir mettre nos élèves dans des situations où on est toujours dans du stimulus-réponse. Il va falloir trouver des conceptions, je vais dire, intelligentes de l'évaluation où nos élèves vont être plongés dans des situations... dans lesquels ils peuvent s'investir. Bon, quand on voit bien dans les travaux qui ont été faits en Angleterre dénoncer quelques dérives, on ne peut pas toujours être dans des évaluations et entraîner à l'évaluation. Et moi, je crois que, un des termes qu'il faut, que je voudrais que vous reteniez, je crois qu'il ne faut pas atomiser l'évaluation. On verra ce que les politiques vous demandent de faire. Il faut aussi se méfier des apprentissages de surface et ne pas évaluer seulement que des apprentissages de surface. On peut espérer que nos élèves vont nous montrer qu'ils ont intériorisé un certain nombre d'apprentissages. Je vous ai montré mon exemple de tap-tapa. Si on avait demandé à la petite fille de réciter les règles de reconnaissance des genres, la petite fille, elle s'en serait sortie. De donner la formule de calcul de l'aire du triangle, il s'en serait sorti. Mais quand on va tester un petit peu plus loin, j'ai utilisé le mot tester, quand on va évaluer, quand on regarde d'un peu plus loin, eh bien, les choses ne sont pas les mêmes. Autrement dit, il va falloir créer des situations intéressantes qui soient porteuses d'informations à exploiter. Et il va falloir trouver une juste place à l'évaluation pour les apprentissages et désapprentissages. Enfin, en tout cas, chers collègues, j'espère qu'on avancera un petit peu dans ces deux jours, dans tout ça, et que l'on pourra évaluer de la manière la plus satisfaisante possible. Voilà. Bon appétit. Merci.